jour, de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, pour remettre en question toutes nos idées reçues sur des animaux disparus qui nous fascinent, les dinosaures. Sont-ils tous aussi gigantesques, féroces et stupides qu'on le croit? Ont-ils vraiment tous mystérieusement disparu sans laisser aucune descendance? Les paléontologues pourraient-ils les ressusciter à partir d'un simple fragment d'os congelé? Autant de clichés, autant de mythes réactualisés par le cinéma qui fait même se côtoyer dans notre imaginaire l'incontournable tyrannosaure et les hommes préhistoriques, alors que plusieurs dizaines de millions d'années les séparent. Comment dépasser tous ces clichés qui ont décidément la vie dure? Et pourquoi la véritable histoire des dinosaures, qui émerge des plus récentes découvertes, est bien plus riche et diverse qu'on ne peut l'imaginer? Quand la réalité des dinosaures dépasse la fiction, voilà ce que nous allons découvrir avec notre invité, le paléontologue Éric Buffeteau, autour de la question « Pourquoi tant d'idées reçues sur les dinosaures ?» Bienvenue. Bonjour Éric Buffeteau.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes paléontologue, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste de la paléontologie des vertébrés. Après vous être intéressé aux crocodiles fossiles, vous vous êtes consacré à l'étude des dinosaures, des oiseaux primitifs et des reptiles volants, autant d'animaux qui excitent notre imaginaire. La question de la disparition des dinosaures est un de vos principaux thèmes de recherche. On y viendra évidemment autour de ces idées reçues sur les dinosaures. C'est le titre de votre ouvrage, paru aux éditions Le Cavalier Bleu dans une nouvelle version, revue et augmentée, car les idées fausses, les idées reçues, les clichés sur les dinosaures continuent de circuler et d'être véhiculés, notamment par le cinéma ou la BD, malgré les découvertes et les recherches les plus récentes qui ont complètement changé la donne. Il n'y a pas un dinosaure, mais une incroyable diversité d'animaux qui ne sont pas tous tyranniques, gigantesques, sanguinaires ou idiots. C'est un peu cela que vous voulez faire passer à travers cet ouvrage, Éric Buffeteau.
Oui, mais le but est effectivement de remettre un peu les pendules à l'heure, si on peut dire, au sujet des dinosaures, au sujet desquels on raconte énormément de choses, pas toujours des choses erronées, bien sûr, mais c'est quand même un sujet qui se prête beaucoup à distorsion ou à répétition de vieilles idées dépassées. Et donc, ce que l'on entend sur les dinosaures a souvent besoin d'être un petit peu rectifié.
Alors déjà, le mot même de dinosaure a une petite influence sur ce qu'on en dit.
Bah, le mot dinosaure, il est ancien maintenant, puisqu'il a été forgé, disons, en 1842 par Richard Owen, qui était un paléontologue britannique. Et si on prend son étymologie qu'il donne lui-même, ça signifie des reptiles terriblement grands. On lit souvent aujourd'hui des terribles reptiles ou terribles lézards, mais d'après Owen, c'est terriblement grand. Le mot grec deinos qu'il a employé pour lui signifiait terriblement grand. Alors déjà, ça donne une idée sur sur les dinosaures qui n'est pas totalement vraie, mais Owen, à l'époque où il a inventé ce mot, plaçait dans les dinosaures trois animaux qui tous étaient vraiment très grands. Donc on ne peut pas lui faire grief de cela, mais depuis on s'est aperçu que parmi les dinosaures, il n'y a pas que des grands animaux.
Et ce ne sont pas, des reptiles qui sont...
Ce sont pas... Alors, le mot reptile est à prendre dans un sens très large. Aujourd'hui, les scientifiques utilisent un peu avec des pincettes le mot reptile, parce qu'on sait que ça couvre des choses extrêmement hétéroclites. Le terme, effectivement, reste, et c'est sans doute un des mots scientifiques qui a eu le plus de succès quand on y réfléchit, parce que dans presque toutes les langues, dinosaure est passé d'une façon ou d'une autre. Bon, il y a quelques langues comme le chinois où il a été transcrit d'une façon différente, mais dans beaucoup de langues,
on dit
signifie un dragon terrifiant. Donc, c'est forgé aussi sur dinosaure, mais dans la plupart des langues, on a repris dinosaure en modifiant un petit peu, dinosaure en anglais ou dinosaure en français. Et
ça a vraiment eu un succès considérable parce qu'effectivement, c'est ce que vous dites dans votre ouvrage sur les idées reçues sur les dinosaures. S'il y a tant d'idées reçues qui tiennent, c'est aussi à cause de la popularité des dinosaures. Parce que c'est un sujet qui excite notre imaginaire et qui a tout de suite été vulgarisé par les premiers paléontologues qui en ont découvert au 19e siècle.
Il a été vulgarisé assez rapidement. Déjà, Owen lui-même a supervisé la construction de reconstitution de dinosaures au début des années 1850, qu'on peut toujours voir dans un parc à côté de Londres, et qui sont grandeur nature. Alors, ils sont très différents de l'idée qu'on se fait actuellement de ces animaux, et ils sont historiquement très intéressants. Et puis ensuite, quand il y a eu de très grandes découvertes réalisées, notamment dans l'Ouest américain, c'est là peut-être que les dinosaures ont plus commencé à fasciner le public, parce que là, on avait des squelettes à peu près entiers, on pouvait avoir une idée assez précise de l'aspect des animaux, et les paléontologues ont très bien vulgarisé, disons, leur découverte à partir de la fin du 19e siècle, disons.
Alors, autour de la question, pourquoi tant d'idées reçues sur les dinosaures? Parmi les idées reçues, on a évoqué ce mot de reptile aussi. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les dinosaures n'ont pas complètement disparu. Enfin, en tout cas, ils ont une descendance sur Terre.
Ils ont une descendance. On a eu longtemps tendance à considérer que les dinosaures, c'était un peu le summum de l'extinction, quelque chose dont il ne restait absolument plus rien. Mais assez rapidement, en fait, dès les années 1860, certains se sont dit peut-être qu'ils ont des descendants et que ces descendants sont tout simplement les oiseaux. Alors, c'est une idée qui a eu son heure de gloire et qui ensuite a été complètement abandonnée pendant la plus grande partie du XXe siècle et qui est revenue au goût du jour depuis une trentaine d'années maintenant, graduellement, surtout à cause de découvertes très spectaculaires faites principalement en Chine, où on s'est aperçu que certains dinosaures étaient couverts de plumes, des plumes qui ressemblent beaucoup à celles des oiseaux dans certains cas. Et maintenant, on a la conviction que les oiseaux sont en fait des dinosaures qui vivent encore aujourd'hui, qui eux n'ont pas disparu, contrairement aux autres.
On va revenir à cette question de la disparition, autour de la question pourquoi tant d'idées reçues sur les dinosaures, mais vous n'échapperez pas à Jurassic Park, Éric Buffetaut, et au terrible cliché des affreux tyrannosaures et vélociraptors extraits.
Ça n'a pas l'air très effrayant.
30.
C'est juste comme une grosse dinde.
Une dinde, hein. Alors essaie de t'imaginer à l'ère Crétacé. Tu jettes ton premier coup d'œil sur cette grosse dinde en débouchant dans une clairière. Elle avance comme un oiseau en hochant de la tête. Et tu ne bouges plus. Parce que tu te dis que peut-être son acuité visuelle est basée sur le mouvement, comme le tyrannosaure, et qu'il t'oubliera si tu ne bouges pas. Mais non, pas le vélociraptor. Tu le fixes dans les yeux. Et il te fixe aussi intensément. Et c'est alors que l'attaque survient. Elle ne vient pas de face, mais par les côtés des deux autres raptors que tu n'avais même pas encore vus. Parce que le vélociraptor n'est pas un chasseur solitaire. Il utilise un schéma d'attaque coordonné. Et il est sorti en force aujourd'hui. Il fend l'air et te la serre avec ça. Une griffe rétractile de 20 cm, coupante comme un rasoir, sur le doigt du milieu. Il ne prend pas la peine de te mordre la jugulaire, comme le lion. Non, non. Il t'entaille. Ici ou ici. Il t'ouvre peut-être le ventre qui déverse tes intestins. Le pire, c'est que tu es vivant lorsqu'il te dévore. Alors essaie de te montrer un peu respectueux.
Ok.
Le tableau est terrifiant. Est-ce qu'ils sont vraiment aussi effrayants que ça, les dinosaures?
C'est-à-dire que certains dinosaures étaient des carnivores, probablement très efficaces, d'après ce que peuvent nous dire leur squelette, leurs dents, leurs griffes, etc. Donc ça ne devait pas être des animaux très, très agréables à rencontrer quand on était un dinosaure herbivore, par exemple.
Mais quand on était un dinosaure herbivore, oui. Parce qu'il faut bien rappeler que les hommes préhistoriques n'ont jamais, jamais, jamais croisé les dinosaures.
Hein. Tout à fait. Il y a au bas mot 60 millions d'années entre les derniers dinosaures et les premiers, même pas hommes, mais hominidés, disons. Donc, les chances pour qu'un homme préhistorique ait rencontré un dinosaure, si on accepte évidemment les oiseaux bien
ouais,
sûr,
oui, c'est ça.
Un dinosaure au sens habituel du terme sont nuls. Quoi. C'est pas, ça n'empêche pas qu'évidemment, il y a une quantité de films, de BD, de romans où les dinosaures et les hommes préhistoriques se côtoient. Je pense assez souvent en connaissance de cause. Je pense pas que beaucoup d'auteurs aient réellement cru qu'il y avait eu des hommes préhistoriques au temps des dinosaures. Mais c'est un artifice de fiction qui a eu quand même beaucoup de succès et qu'on retrouve régulièrement dans les œuvres de fiction, précisément.
Dans toutes les œuvres de fiction, parce que les dinosaures peuplent les œuvres de fiction bien avant Jurassic Park. Ça aussi, c'est une idée reçue. On a l'impression qu'on les a rencontrés, connus et découverts à travers Jurassic Park, alors que c'est beaucoup plus vieux que ça.
C'est quelque chose qu'on entend assez souvent. beaucoup de gens s'imaginent que la vogue des dinosaures remonte à Jurassic Park, c'est-à-dire à 1993. C'est complètement faux. Moi, je me souviens très bien, dans les années 50, étant enfant, avoir eu beaucoup de livres sur les dinosaures destinés aux enfants. C'était quelque chose de tout à fait commun. Et ça remonte encore bien plus loin que ça. On a commencé à populariser les dinosaures dès le 19e siècle et ça n'a pas cessé. Et donc je dirais plutôt que Jurassic Park a essayé de surfer sur l'intérêt pour les dinosaures plutôt que de lancer. Alors évidemment, ça a contribué à rallumer l'intérêt pour ces animaux, mais ce n'est pas du tout de Jurassic Park que date l'intérêt pour les dinosaures.
Alors pour vous, je ne sais pas si c'est l'intérêt date de là, mais en tout cas la première rencontre avec un dinosaure à l'écran qui a peut-être marqué votre vie au point de devenir paléontologue, c'était dans Fantasio, avez-vous dit, de Walt
Fantasia,
Disney.
Oui, Fantasia, pardon. Fantasia, oui, qui date de 1940. Alors, ce n'est pas le tout premier dinosaure au cinéma. Il y a déjà eu, dès 1914, il y avait eu un dessin animé américain qui mettait en scène un dinosaure. Et puis ensuite, il y a eu quelques apparitions des dinosaures au cinéma. Mais Fantasia, c'est un film que j'ai vu quand j'étais enfant, pour la première fois. Et donc, pour rappeler ce que c'est les studios Disney ont inventé des séquences de dessins animés sur de la musique classique. Donc, il y a un nombre de morceaux classiques sur lesquels sont calqués, si on veut dire, des dessins animés qui sont d'ailleurs très, très réussis, à mon avis.
Et puis, l'un d'entre eux, voilà. Et ben voilà, l'attaque du T-Rex liée au Sacre du Printemps de Stravinsky, qu'on écoute tout de suite sur RFI. Le Sacre du Printemps de Stravinsky sur RFI, extrait de la bande originale de Fantasia de Walt Disney, morse choisi par notre invité, le paléontologue Éric Buffetot. Autour de la question pourquoi tant d'idées reçues sur les dinosaures, vous voyez, et on voit finalement, en entendant ça, le T-Rex dévorer les autres dinosaures herbivores, enfin les autres herbivores.
Oui, alors évidemment, ce n'était pas l'intention de Stravinsky quand il a composé Le Sacre du Printemps en 1912. Pour lui, le Sacre du Printemps, ça évoque une cérémonie rituelle dans la Russie primitive, donc ça n'a rien à voir avec les dinosaures. Mais il se trouve que Disney a trouvé que ça collait bien sur les dinosaures et d'autres animaux
alors,
disparus.
Les dinosaures, vous dites, parce que souvent le T-Rex, hein, le tyrannosaure, ça résume à lui seul, ça vous énerve
ça
beaucoup,
m'énerve
je
beaucoup,
crois,
oui, ça m'énerve beaucoup. Cette réduction au tyrannosaure que les médias ont tendance à aimer un peu trop, ils ne peuvent pas parler d'un dinosaure sans dire « Ah, c'est un cousin du tyrannosaure, il vivait en même temps que le tyrannosaure ou avant le tyrannosaure. » Le tyrannosaure est devenu une espèce de référence incontournable dès qu'on parle de dinosaures, et je ne vois vraiment pas pourquoi. Bon, c'est un dinosaure parmi d'autres, c'est tout.
Parce que les dinosaures, quand on dit les dinosaures, c'est énorme, c'est une famille totalement énorme qui a vécu combien de temps sur Terre ?
Qui a vécu entre plus de 150 millions d'années, peut-être.
Donc
160,
bien plus que nous, 70, hein.
Beaucoup plus que les humains, ou que même les hominidés, que même la famille humaine. Et pendant cette très longue période, les dinosaures, évidemment, ont évolué constamment, sont diversifiés, et on connaît maintenant des centaines et des centaines d'espèces de dinosaures, et tous les ans, on en découvre de nouvelles. Donc ce qu'on connaît actuellement comme espèce de dinosaure, c'est une fraction probablement très faible de ce qui a vraiment existé.
On en découvre sur tous les continents.
Oui, on en a trouvé sur tous les continents, même dans des lieux un peu inattendus comme l'Antarctique, qui n'est pas très facile d'accès, mais on a trouvé quand même des restes de dinosaures, on en connaît vraiment sur tous les continents, absolument.
Et c'est une question quoi de fossiles? Il y en a vraiment eu partout, sauf qu'ils se sont fossilisés. utilisé plus ou moins bien.
Il y en a eu partout. Alors, évidemment, pour en trouver, eh bien, il y a une condition sine qua non, c'est d'avoir des roches qui soient de la bonne époque, époque où ont vécu les dinosaures. Sinon, bien sûr, on n'en trouvera pas. Mais autrement, on peut trouver des dinosaures vraiment un peu partout. Et en France, par exemple, on en connaît dans de nombreuses régions du pays, ce qui n'est pas toujours évident pour le public qui a tendance à voir les dinosaures comme des choses un peu exotiques qu'on doit aller chercher.
C'est ça, qui vivraient dans des milieux tropicaux.
Alors, ça, c'est aussi une idée reçue sur les dinosaures, qui est ancienne d'ailleurs, comme quoi c'est des animaux qui vivaient dans des milieux tropicaux, qui ne pouvaient pas supporter le froid. Et on s'est aperçu assez récemment que c'était totalement faux. En fait, on sait maintenant que des dinosaures vivaient dans des climats relativement frais, des climats tempérés, qui étaient trop froids pour d'autres animaux, comme les crocodiles ou les tortues, par exemple.
Sans froid ou sans chaud?
Alors, s'ils pouvaient vivre justement dans telles conditions, c'est qu'ils avaient le sang chaud, c'est-à-dire qu'ils pouvaient maintenir leur température corporelle à un niveau constant, comme nous, comme les mammifères, comme aussi les oiseaux aujourd'hui. Et ça a été découvert relativement récemment à partir de diverses approches, y compris des manipulations de géochimie isotopique assez compliquées, mais qui ont montré de façon, à mon avis, incontestable que les dinosaures étaient des animaux à sang chaud.
Ça a quand même du mal à passer dans le grand public autour de la question pourquoi tant d'idées reçues sur les dinosaures en général, et puis sur T-Rex en particulier. Je propose un nouveau reportage tourné au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, c'était l'été dernier, en juin 2018, autour de Trix, véritable spécimen de femelle T-Rex exposée pour la première fois à Paris. Alice Milon, notre reporter, y avait croisé des jeunes et des moins jeunes, amateurs de dinosaures et de frissons. On écoute leur réaction face à Trix.
On est devant T-Rex et je suis ravie parce que j'ai toujours rêvé de rencontrer des dinosaures et on en a parlé à l'école et je me disais j'aimerais bien en voir un pour de vrai. Il est très grand, il a l'air assez féroce.
Moi ce qui m'impressionne beaucoup c'est sa tête en fait, avec la taille des dents, la taille de la bouche. C'est vrai que nous on est venus avec nos deux filles de 3 et 5 ans, puis à côté elles font toutes petites. Donc oui, c'est saisissant, les enfants se resserrent contre nous. Non, c'est vrai que c'est extraordinaire, c'est vraiment à voir.
On le sort de l'imaginaire des films. On dit, en fait, il a réellement vécu. Il y a ça aussi. À force qu'on le voit dans les films, que les enfants, dans les livres, ça reste, on le rentre dans les contes de fées, on va le rentrer dans la science-fiction et plus dans l'histoire.
Voir un T-Rex, c'était un petit peu mon rêve. Quand je serai grand, j'ai envie d'être paléontologue.
Voilà qui est dit face à T-Rex, Trix, qui a été exposé pendant trois mois.
C'est une très belle exposition d'ailleurs, je ne suis pas un fan des tyrannosaures, mais c'est une très belle exposition.
Ouais, squelette de 66 millions d'années, exposé pendant trois mois au Muséum National d'Histoire Naturelle. Donc c'était à Paris l'été dernier, en 2018, il y a toujours les mêmes réactions. Est-ce que c'est aussi une fascination pour les dinosaures qui vous a poussé, vous, à devenir paléontologue?
Oui, en partie, parce que comme je le disais tout à l'heure, étant enfant, j'ai eu des livres sur les dinosaures, ou contenant des parties sur les dinosaures, et ça m'a vraiment étonné et assez vite fasciné ces animaux qui n'existaient plus. C'était une partie de leur intérêt et qui étaient des choses très différentes des animaux d'aujourd'hui.
C'est ça. Et dans leur diversité, l'énorme famille des dinosaures qui a vécu énormément de temps sur Terre, il y a des millions d'années, elle est immense cette famille. Il y a toutes les tailles, herbivores, des carnivores, il y a tous les comportements,
Une énorme diversité, effectivement, y compris des dinosaures très petits, contrairement à ce qu'on a tendance à penser. Il y a des dinosaures qui n'étaient pas plus gros qu'un poulet, voire plus petits que ça.
Une petite dinde, comme
disait le... l'enfant. Et il n'y a pas tort, d'ailleurs. À tout point de vue, il n'a pas tort. Ensuite, il y a une diversité de formes extraordinaires. Il y a des dinosaures qui ont des cornes, il y en a d'autres qui ont des...
Qui ont des cornes?
Oui, il y a des dinosaures qui avaient de grandes cornes sur le crâne. D'autres avaient des grandes plaques osseuses hérissées sur le dos. Il y en a qui étaient donc petits, mais il y en a d'autres qui faisaient 30 ou 40 mètres de longueur. Donc c'est tout un monde, effectivement.
Tout un monde qui nous fait rire, parce que c'est un monde disparu autour de la question « Pourquoi tant d'idées reçues sur les dinosaures ?» En voilà encore une, Éric Buffeteau, sur laquelle vous interroge Caroline Tourbe du mensuel « Science et vie ».
On sait qu'on ne connaît pas toutes les espèces qui vivent sur la Terre. Est-ce que c'est possible encore de retrouver, par exemple, un dinosaure qu'on croyait disparu? Alors peut-être pas évidemment un dinosaure géant en mode Conan Doyle dans Le Monde Perdu, mais quelque chose qu'on n'imaginait plus jamais retrouver. Est-ce que c'est possible ou pas?
Votre réponse, Eric.
Ma réponse, c'est que d'abord, on peut retrouver des êtres que l'on croyait disparus. C'est arrivé un certain nombre de fois. On trouve périodiquement, même si c'est pas ultra fréquent, de grosses espèces animales, enfin des animaux de grande taille que l'on ne connaissait pas. C'est pas très fréquent, mais ça arrive. Alors, de là à retrouver un dinosaure qui aurait survécu tel quel jusqu'à nos jours, ça paraît un peu plus compliqué, parce que quand même les régions qui n'ont pas été explorées par l'homme sont de plus en plus réduites, ce qui n'empêche pas que, comme je disais, on trouve parfois encore des animaux qui étaient inconnus. Un dinosaure, alors il y a des rumeurs effectivement sur des dinosaures qui survivraient jusqu'à nos jours, et notamment en Afrique centrale, dans la région d'Afrique.
Le Mokelo Bembe, notamment.
Que certains recherchent encore avec ardeur, et que l'on a un peu trop rapidement assimilé à un dinosaure en se fondant sur des idées des dinosaures qui sont un peu dépassées ou même très dépassées aujourd'hui. Parce qu'il est décrit par les gens qui vivent dans ces régions plutôt comme un animal qui serait largement aquatique, etc. Et on ne voit plus les dinosaures comme ça aujourd'hui. Donc il est fort possible qu'il y ait un animal, un gros animal qui vive encore dans ces coins vraiment reculés de la forêt équatoriale. À mon avis, il y a peu de chances que ce soit un dinosaure. Alors qu'est-ce que c'est ? Ça, je ne me hasarderais pas à dire. Mais...
Parce que les dinosaures, ce ne sont pas des monstres marins, hein, on est bien d'accord.
Les dinosaures ne sont pas des monstres marins. Il y a eu des grands reptiles marins en même temps que les dinosaures, les ichthyosaures et les plésiosaures, mais qui, techniquement, scientifiquement parlant, ne sont pas des dinosaures. Ils n'appartiennent pas au grand groupe des dinosaures. Ils ont vécu en même temps qu'eux, mais on ne doit pas les appeler des dinosaures.
Pourquoi ont-ils disparu, les dinosaures ? Alors c'est étonnant parce que dans ces idées reçues, au fond, finalement, on a l'impression qu'on... Enfin, on s'interroge évidemment encore sur la manière dont ils ont disparu. Mais enfin, finalement, pour les scientifiques, la question est presque quasi réglée, même s'il manque des détails.
Oui, ce qui m'énerve un petit peu parfois, c'est que l'attitude sur un cas, de toute façon, les dinosaures, on ne saura jamais pourquoi ils ont disparu. Alors c'est un aveu d'impuissance qui, scientifiquement, est un peu gênant, parce qu'on ne voit pas pourquoi cette question-là ne pourrait pas être résolue. Et... Je pense qu'elle est très, très largement résolue, et ça depuis bientôt 40 ans, parce qu'on sait depuis 1980 qu'à la fin du Crétacé, donc à la dernière période où ont vécu des dinosaures, et encore j'exclus les oiseaux, bien sûr, une très grosse météorite est entrée en collision avec la Terre et a provoqué des bouleversements de l'environnement à l'échelle mondiale qui ont été d'une ampleur extraordinaire, qu'on a presque du mal à imaginer. Et c'est à ce moment-là, comme par hasard, que se produit la disparition des dinosaures. Donc il est très difficile de croire qu'il n'y a aucun lien entre les deux. Et depuis donc presque 40 ans, de nombreux scientifiques ont travaillé sur la question, ont essayé de reconstituer. Il y a encore paru un article tout récemment sur la question, il y a deux jours, reconstituer ce qui s'est passé au moment de cet impact météoritique, et aussi essayer de proposer des scénarios qui permettent d'expliquer comment ce phénomène astronomique, en fin de compte, au départ, a pu provoquer un grand phénomène biologique qui est la disparition des dinosaures. Et pas seulement les dinosaures, parce que de très nombreuses autres espèces qui n'ont rien à voir avec les dinosaures ont disparu en même temps.
Et les oiseaux ont survécu.
Et les oiseaux ont survécu, on ne sait pas trop comment. Enfin, s'il y a des hypothèses.
Oui,
il y a
mais les questions, elles sont plutôt là, sur comment et pourquoi il y a eu une relève et la vie n'a pas complètement
tout
disparu.
Tout à fait. Ça résume très bien la question. Ce qu'on doit se demander, c'est plutôt pourquoi certaines espèces animales ont survécu apparemment sans trop de difficultés. Et ça, c'est un peu plus difficile à comprendre, même s'il y a des explications qui sont proposées. Et chez les oiseaux, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu une grosse extinction aussi à ce moment-là, et que seulement quelques espèces d'oiseaux y ont survécu. Pourquoi, ça reste débattu, mais les oiseaux n'ont pas été complètement indemnes. Mais néanmoins, contrairement aux autres dinosaures, ils ont survécu.
Donc on continue de voir des dinosaures partout, quand on voit un pigeon, des oiseaux.
Ou un moineau dans les rues de Paris, ou de n'importe quelle vie, eh bien, on voit un dinosaure. Oui.
Et est-ce qu'en tant que paléontologue, vous citez aussi cette idée reçue-là, est-ce que vous pouvez reconstituer un dinosaure entier à partir d'un seul os ?
Ça, c'est une vieille idée, j'allais dire légende, c'est pas forcément tout à fait le terme. On a attribué ça notamment à Georges Cuvier, qui a été un des tout premiers paléontologues, voire le premier à reconstituer des animaux à partir avec une méthode véritablement scientifique et efficace. Et donc, de là est venue l'idée qu'avec simplement un morceau d'os, on pourrait reconstituer un animal entier. Alors, c'est vrai et faux à la fois, parce que si vous trouvez un morceau d'os d'un animal qui est déjà connu par un squelette complet, et que vous pouvez dire ça appartient, disons, à un diplodocus, prenons un dinosaure, là, vous pouvez reconstituer l'animal, parce qu'il est déjà connu. Vous savez que vous avez trouvé, mettons, un numérus de diplodocus. Donc, bon, d'accord, vous savez à quoi ressemble un diplodocus. Si vous tombez sur un os d'un animal dont on ne connaît que très peu de choses, voire pratiquement rien, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas faire des hypothèses. Dans la mesure où on voit de quel groupe d'animal il s'agit, on va pouvoir avoir une idée assez générale de son aspect probable. Mais il faut faire attention, parce qu'il y a déjà eu des erreurs assez catastrophiques dans certains cas. C'est pas un reproche, moi, j'en ai fait comme tous les paléontologues. Parfois, on se laisse entraîner sur de fausses pistes et on arrive à des résultats qui sont assez loin de la réalité.
Vous avez quand même découvert pas mal d'oiseaux fossiles.
Oh, j'ai découvert un certain nombre de choses, enfin, découvert ou décrit, parce que on n'est pas toujours le découvreur du fossile que l'on décrit. Il a souvent été trouvé par quelqu'un d'autre, par quelqu'un de l'équipe à laquelle on appartient, ou par quelqu'un qui n'est pas du tout un paléontologue. Beaucoup de restes de dinosaures sont trouvés par des gens qui sont, par exemple, un viticulteur qui laboure sa vigne ou quelque chose comme ça. C'est pour parler de cas concrets que je connais.
Sont-ils, et ça c'est une autre idée reçue que vous citez dans votre livre, sont-ils devenus trop grands? Sont-ils une sorte d'échec de l'évolution, les dinosaures? Est-ce que quand on pose cette question, on pense à nous d'ailleurs, peut-être aux humains, j'en sais rien.
D'abord, j'ai un petit problème avec le concept d'échec de l'évolution, parce que l'évolution, c'est pas une personne, c'est pas quelqu'un qui peut avoir des échecs, c'est un phénomène naturel. Alors il est vrai que de nombreuses espèces, d'innombrables espèces, je dirais même, se sont éteintes au cours de l'évolution. C'est pas forcément pour autant qu'il faut voir ça comme des échecs. Et dans le cas des dinosaures, échec, c'est très relatif. C'est quand même un groupe d'animaux qui a vécu pendant plus de 150 millions d'années.
C'est énorme, 150 millions d'années.
Et en fait, qui existe encore aujourd'hui, puisque comme les oiseaux sont en fait des dinosaures, on ne peut pas dire que ce soit un échec. Si vous prenez les oiseaux, c'est un groupe qui a eu un très grand succès. On connaît 10 000 espèces d'oiseaux à l'heure actuelle. C'est nettement plus que les espèces de mammifères. Donc, vous voyez, l'échec des dinosaures, il faut beaucoup relativisé.
Autour de la question pourquoi tant d'idées reçues sur les dinosaures, allez, on continue en musique. S'il vous plaît, à parodier les clichés avec Queen Latifah sur RFI, bande originale de L'Âge de Glace 3. Le morceau s'intitule Walk the Dinosaur. Walk The Dinosaur, Queen Latifah dans l'âge de glace 3 sur RFI. Autour de la question, pourquoi tant d'idées reçues sur les dinosaures, titre de l'ouvrage de notre invité, le paléontologue Éric Buffetot. Est-ce qu'on sait comment ils marchaient, les dinosaures?
On en a une certaine idée, au moins pour certains d'entre eux, entre autres parce qu'on a trouvé des empreintes de pas de dinosaures. C'est même pas très rare hein, de trouver des empreintes de pas de dinosaures. Il y en a de très beaux sites en France, notamment dans le Jura, les empreintes de pas d'énormes dinosaures, mais on connaît aussi les empreintes de pas de très petits dinosaures. Donc on connaît finalement les empreintes de pas de pas mal de types de dinosaures, et à partir d'une piste de dinosaures, on peut reconstituer un certain nombre de choses. On peut reconstituer la vitesse de déplacement, par exemple. Il y a des équations qui ont été mises au point pour
entre partir, le poids du
oui, et puis l'écartement des pas, etc. Donc ça donne des précisions sur la façon, la vitesse à laquelle ils se déplaçaient. Aussi, parfois, on trouve des pistes de dinosaures qui sont parallèles. On a vraiment l'impression que plusieurs dinosaures marchaient ensemble dans la même direction. Et ça se fait penser que certains dinosaures étaient plus ou moins grégaires, en tout cas pas des animaux solitaires. Donc ça donne des informations sur les comportements des dinosaures.
Est-ce qu'on sait comment ils vivaient, comment ils se nourrissaient, par exemple?
Alors, la nourriture, c'est, je dirais, une des choses peut-être les plus faciles à reconstituer, parce que en fonction de l'aspect des dents, de la forme des dents, on a des idées relativement précises sur ce que mangeait un dinosaure. Et notamment, on peut faire facilement la grande distinction entre un carnivore et un herbivore. Parce que les dinosaures carnivores avaient des dents tranchantes qui ressemblaient un peu à des lames de couteau pour couper la chair de leur victime. Les dinosaures herbivores ont des dents d'un style tout à fait différent qui leur servaient à couper des branches, des feuilles, etc.
En tout cas, toutes ces découvertes sur les pas des dinosaures, sur la manière dont ils marchaient, je crois qu'il y a aussi parfois la 3D ou qui peut vous aider à reconstituer
on peut faire
le mouvement.
C'est un outil qu'on utilise de plus en plus en paléontologie pour toutes sortes de choses, y compris pour reconstituer les déplacements des dinosaures, aussi pour étudier certains fossiles, pour reconstituer certains spécimens. Il y a un tas de techniques un peu innovantes qui sont utilisées en paléontologie. C'est pas une science poussiéreuse comme on croit parfois.
Oui, c'est ça, qui permettent de faire avancer. En tout cas, toutes ces recherches, ces découvertes inspirent alors non seulement vos collègues paléontologues, mais aussi d'autres chercheurs, notamment l'éthologue Claude Baudouin, qui était récemment notre invité, qui étudie donc le comportement des différentes espèces d'animaux et qui a une question pour vous.
Déjà, je suis jaloux parce que les paléontologues ont des traces en dur du passé, et nous, en comportement, on n'en a pas beaucoup. Mais il y a quand même quelques restes, des œufs de dinosaures. Donc, est-ce que les œufs étaient soignés par les parents, par un des deux, par les deux, ou par un groupe? Est-ce que l'éclosion était favorisée par l'utilisation de matériaux végétaux en fermentation? Est-ce qu'on peut répondre à des questions comme ça?
Est-ce que vous pouvez y répondre?
Partiellement. Je dirais d'abord qu'effectivement, des œufs de dinosaures, on en connaît. On en connaît même beaucoup. Ce n'est pas des fossiles rares, contrairement à ce qu'on pourrait penser.
Oui, parce que là aussi, on pense que c'est très rare.
Non, ce n'est pas du tout rare. Dans le sud de la France, des œufs de dinosaures, on en a découvert des milliers, littéralement. Et dans beaucoup d'autres régions du monde. Ce qui est plus rare, beaucoup plus rare, c'est de trouver un embryon conservé à l'intérieur d'un œuf. C'est arrivé, mais c'est rare. Enfin, et par exemple, en France, on a beau avoir des grandes quantités d'œufs de dinosaures. Pour l'instant, on n'a jamais trouvé un embryon à l'intérieur.
Parce que c'est là où ça dit quelque chose.
Alors, ça dit quelque chose surtout très important, ça nous dit de quel dinosaure provient cet œuf. Parce que l'œuf tout seul, on voit c'est un gros œuf qui est probablement un œuf de dinosaure, mais qui l'a pondu, quelle espèce de dinosaure, ça c'est beaucoup plus difficile, parce que généralement il n'y a pas le reste de la maman à côté, et quand il n'y a pas les restes de l'embryon à l'intérieur, on est un peu dans le brouillard. En fait. Mais donc, on connaît quand même un certain nombre d'œufs qui contiennent des embryons qui permettent de dire que c'est telle espèce de dinosaure. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que les œufs se sont souvent retrouvés groupés en nids, et quelquefois ces nids nous disent des choses intéressantes sur le comportement des dinosaures. Le mois dernier, j'étais en Mongolie, et c'est un endroit où on a trouvé de nombreux nids de dinosaures, et quelquefois on a trouvé un dinosaure adulte qui était posé sur le nid, qui est donc très probablement un des parents. On ne sait pas très bien si c'était le mâle ou la femelle, parce qu'on a un peu de mal à différencier les sexes chez les dinosaures, et qui couvait, ou au moins était dans la position d'un oiseau en train de couver, qui était posé sur son nid. Les œufs sont posés dans une espèce de nid fait avec un peu creusée dans le sol avec un rebord surélevé, et il y a les œufs sont pondus là-dedans. Et donc le dinosaure s'asseyait sur son nid, en tout cas pour certainement protéger ses œufs et éventuellement les couver. Et donc ça donne des indications sur un comportement étonnant.
Ah oui, extraordinaire, c'est des pistes de recherche extraordinaires. Et est-ce que, si on trouve un embryon, est-ce que l'ADN pourrait jouer? Puisqu'il y a aussi ce fantasme de ressusciter un dinosaure, le fameux fantasme.
C'est le fantasme qui est à la base de Jurassic Park.
Absolument.
Et il faut dire que quand le film a été tourné, on avait quelques espoirs, parce qu'on pensait qu'on pouvait éventuellement retrouver de l'ADN qui remontait à l'époque des dinosaures. Et aujourd'hui, ces espoirs se sont très largement évanouis, parce qu'on s'est aperçu que l'ADN, c'est une molécule qui est très fragile, et qui se désintègre très rapidement au cours du temps. Ce qui fait que quand on a beaucoup de chance, on va arriver à reconstituer le génome de l'homme de Néandertal, par exemple, ce qui a été fait au prix d'efforts énormes d'ailleurs, ou celui du mammouth ou de l'ours des cavernes. Et tout ça, c'est des êtres qui vivaient relativement récemment par rapport aux dinosaures. Ça remonte à 50 000 ans à peu près. Donc on est très loin des derniers dinosaures qui ont vécu il y a 66 millions d'années.
Il y a l'ADN, il n'y a plus, il n'y a plus rien.
Il n'y en a plus. Hein. Mmh. Et même dans des endroits où on espérait trouver de l'ADN parce que le milieu de conservation était exceptionnel, comme dans l'ambre, où on pensait que des insectes conservés dans l'ambre avaient pu conserver leur ADN, eh bien, on a toujours été déçus. Donc ça paraît très 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 improbable qu'on puisse isoler de l'ADN de dinosaures dans un état suffisant pour reconstituer un de ces animaux.
Vous diriez qu'aujourd'hui, évidemment on en sait beaucoup plus, vous parlez de ces œufs de dinosaures couvés par donc les ancêtres des oiseaux, enfin on arrive même peut-être à s'imaginer, on en sait beaucoup plus ou est-ce qu'on se rend beaucoup plus compte de l'étendue de notre ignorance sur les dinosaures?
Les deux, parce qu'on en sait beaucoup plus, c'est certain qu'on en savait il y a 50 ans par exemple, et en même temps il faut rester modeste et se rendre compte qu'il reste énormément de choses à découvrir. Il y a des régions, on disait tout à l'heure qu'on a trouvé des dinosaures un peu partout dans le monde, mais il y a des régions qui sont beaucoup moins explorées que d'autres, et on peut s'attendre à des découvertes inattendues. Et puis même dans des endroits bien connus comme la France, on trouve parfois des sites tout à fait inattendus. Il y a un site en Charente qui est fouillé par mes collègues du muséum, qui est une découverte considérable, qui était totalement inattendue. Dans cette partie de la France, on ne connaissait pas énormément de choses dans ce domaine. Et donc, voilà.
Donc on peut toujours espérer autour de la question des dinosaures qui continuent malgré tout de nous faire fantasmer, d'exciter notre imagination et la vôtre aussi, hein, je pense. Éric Buffetaud, je propose un petit détour par une vente aux enchères de squelettes de dinosaures qui se multiplient ces dernières années, avec plus ou moins de succès d'ailleurs. Hein. On ne les vend pas toujours, les dinosaures. Arrêt sur le squelette de Skinny, c'est un cousin du Diplodocus, découvert en 2012 dans le Wyoming aux États-Unis, qui date d'il y a 150 millions d'années. Son squelette quasiment complet a été mis aux enchères en juin dernier à Paris. Présentation du spécimen par l'expert Éric Micheler au micro de notre reporter Inès Edel Garcia.
Alors oui, nous sommes en présence d'un grand dinosaure herbivore, ce qu'on appelle vulgairement un sauropode. Et là, plus exactement, c'est un nouveau Diplodocidae, on va parler latin, très proche du Diplodocus. Et on peut dire qu'on est en présence d'un nouveau genus et d'une nouvelle espèce, avec un très grand corps qui marchait à quatre pattes, une très grande queue avec ce qu'on appelle un fouet à l'arrière. On pense scientifiquement que c'était aussi une arme défensive, ça leur servait le battre très violemment et au cas où il y avait un prédateur, de le déséquilibrer par exemple. Et la particularité, un très très long cou et à la fin une tête que vous avez là au niveau de l'original, dans la vitrine, toute petite par rapport à la taille de l'animal. Alors, on l'a appelé skinny, justement, c'est le mot anglais qui sort du mot skin, peau. Pourquoi ? Parce qu'il a une chose incroyable sur ce spécimen, et on peut le voir très facilement à plusieurs endroits, il a conservé de très grandes quantités de peau. Il a une quantité de peau incroyable qui s'est littéralement momifiée sur les os. Vous avez même de la peau sur les griffes, vous avez de la peau sur les tibias, sur les humérus, il y en a à peu près partout. Ce squelette a été trouvé en connexion, c'est-à-dire qu'il a dû être pris dans une coulée de boue, quelque chose de similaire, qui a permis un recouvrement immédiat de l'animal, dans un milieu donc anaérobie, sans oxygène, qui a permis une fossilisation extraordinaire, entre autres de la peau. Et en plus, il est tombé dans une zone où il n'y a pas eu de fragments tectoniques. C'est-à-dire que, tout simplement, les plaques, il n'y a pas eu de mouvement de plaques dans ces endroits-là qui auraient pu fractionner encore ou compresser. En réalité, il n'y a qu'une vertèbre qui est compressée sur la totalité.
Ce squelette de Skinny s'apprête à être vendu aux enchères.
Oui.
Qui serait susceptible de l'acheter? Ce sont des musées, des collectionneurs particuliers?
Alors, j'aurais dit il y a 10 ans, oui, les musées. Quand j'ai commencé, oui, les musées achetaient. Actuellement, depuis plusieurs années, ils ont beaucoup de problèmes de financement. Il faut qu'ils fassent appel à des mécènes.
Plein de questions à vous poser, Eric Lufto. Je vous ai vu un peu froncer les sourcils. Alors d'abord, qui achète des squelettes anti-dinosaures? Celui de Skinny, c'est pas vendu?
Non.
Il était quoi, estimé trop cher?
Certainement. Et bien, récemment, il y a eu plusieurs échecs comme ça de vente aux enchères de dinosaures qui n'ont pas trouvé preneur. Alors, qui achète les musées assez rarement, pour plusieurs raisons. D'abord, financièrement, c'est parfois au-dessus de leurs moyens. Et puis aussi, beaucoup de musées se disent, avec la somme énorme que j'investirais dans l'achat de ce dinosaure, je peux monter mes propres projets scientifiques, aller chercher mes propres dinosaures moi-même, à des endroits qui seront peut-être plus intéressants que Wyoming, où on connaît très bien tous les dinosaures.
Oui, on pourrait faire plus de recherches.
Alors effectivement, il y a des particuliers qui achètent des dinosaures pour Dieu sait quoi, ça
prend
de la place
dans
un salon quand même, un très grand salon, avec quelquefois des déconvenus, parce qu'il est arrivé que certains achètent des dinosaures qui étaient sortis de pays où c'était totalement interdit de les vendre et qui ont été obligés de les restituer. Donc ça fait une perte.
Il y a du trafic,
oui, bien sûr. Il y a un trafic important. Il faut voir que le commerce des fossiles, c'est pas uniquement les dinosaures, mais les fossiles en général, ça représente des sommes considérables à l'échelle mondiale. Et donc les dinosaures sont parmi les objets recherchés. Et donc il y a un trafic. Il y a des pays qui ont été totalement pillés pendant assez longtemps, comme le Brésil, qui maintenant a pris des mesures extrêmement draconiennes contre le commerce des fossiles, et ça avec pas mal d'effets. Il y a d'autres pays qui n'y arrivent pas beaucoup, comme le Maroc, parce qu'il y a d'autres problèmes. La vente des fossiles fait vivre beaucoup, beaucoup de monde, et c'est un peu difficile de mettre dans la misère une grande partie de certaines populations en leur interdisant de vendre des fossiles. Il y a d'autres pays comme la Chine aussi, qui a subi pas mal de trafic, qui a aussi après des mesures qu'on peut imaginer draconiennes, vu que c'est la Chine.
Et vu qu'on découvre énormément de dinosaures asiatiques, et qu'ils ont... Voilà,
Il faut voir aussi que la Chine, c'est pas pareil... La paléontologie est une science qui est très soutenue en Chine. Ils ont énormément de moyens et donc ils ont tout à fait les moyens de chercher leurs dinosaures eux-mêmes et de les étudier, etc.
Et revenons sur ce squelette de Skinny. Alors, donc il a de la peau, il lui reste de la peau. Qu'est-ce que vous diriez de ce qu'on a entendu dans la présentation de ce squelette?
C'est une belle page de pub, je dirais, scientifiquement parfois un peu discutable. Maintenant, l'histoire de la peau, oui, on connaît des empreintes de peau. En général, ce n'est pas de la peau proprement dite, c'est une empreinte de la peau qui s'est conservée dans le sédiment. Et c'est intéressant, effectivement. Et on connaît des diplodocus. Je ne suis pas du tout convaincu que ce Skinny soit vraiment quelque chose de nouveau. C'est peut-être très bien un diplodocus, donc un dinosaure connu depuis plus de 100 ans. Trouver des restes de peau, c'est intéressant. Ça donne des indications sur l'aspect extérieur de l'animal qui ne sont pas très courantes.
Et là encore, par rapport aux idées reçues, ça a beaucoup changé. Vous le disiez, en Chine, on a découvert
les couleurs, on peut essayer de reconstituer les couleurs des plumes de dinosaures. C'est pas très facile. Il y a des techniques où on peut essayer de voir, d'imaginer un peu quels étaient les pigments qui étaient sur ces plumes. Ça reste encore un peu délicat parce que les reconstitutions qu'on a publiées, tous les dinosaures sont noirs ou bruns et manifestement il manque des pigments là-dedans. Et certains spécialistes des pigments fossiles disent oui, mais c'est parce que on arrive à reconstituer les pigments bruns, noirs, etc. Mais les pigments de couleur plus vive, pour l'instant, on a beaucoup de mal. Donc c'est pas encore tout à fait au point, à mon avis, cette reconstitution des couleurs.
Et quand on parle donc de dinosaures à plumes, en couleurs, etc., est-ce que ça concerne, parce qu'on a dit c'est une énorme famille qui a vécu 150, j'ai peur de dire une
150 millions d'années.
150 millions d'années, c'est bien ça, au moins. Non, mais ça me paraît un chiffre tellement astronomique que j'ai du mal à le dire. Mais est-ce qu'ils étaient très différents? Il y avait des grands, des petits, des à plumes, des en couleurs, des.
Enfin, tous n'avaient pas des plumes, il ne faut pas s'imaginer que tous les dinosaures étaient couverts de plumes. Beaucoup en avaient, effectivement, on s'en rend compte aujourd'hui. Mais on parlait du diplodocus, ce qu'on connaît de la peau des diplodocus, qui pouvait faire 30 mètres de longueur, ce n'est pas des petits dinosaures. Ce qu'on connaît de leur peau ne montre absolument pas la moindre trace de plume. C'est plutôt une peau un peu peut ressembler peut-être à celle d'un éléphant, ou quelque chose comme ça. Donc certains dinosaures avaient des plumes, d'autres non, ça c'est une certitude.
Est-ce qu'il y en a un de dinosaure que vous rêveriez de trouver, d'étudier, de... Enfin voilà, est-ce qu'il y a un favori, un préféré, vous nous décririez ?
J'ai pas vraiment de dinosaure favori, ça c'est plutôt les adolescents dinomaniaques qui ont leur dinosaure préféré, qui est souvent le tyrannosaure, toujours mais souvent. Quand on travaille dessus, on abandonne assez vite cet état d'esprit.
Bien sûr.
Je dirais que... C'est difficile de dire ce que l'on aimerait trouver, parce que c'est un des intérêts dans un sens de la paléontologie, une de ses caractéristiques, c'est qu'on ne sait jamais exactement sur quoi on va tomber. Et finalement, c'est l'inattendu qui fait le charme de l'histoire. Donc j'aurais du mal à vous dire quel dinosaure j'aimerais trouver. Moi, ce qui m'a intéressé le plus dans les dinosaures sur lesquels j'ai travaillé, c'est évidemment les choses que l'on ne connaissait pas et que l'on a découvert, moi et Jean et mes collaborateurs, disons.
Par exemple.
Alors, bon, pour être franc, le dinosaure qui m'intéresse le plus en ce moment et depuis un certain temps, c'est un dinosaure, mais c'est un dinosaure bien particulier parce que c'est un oiseau.
C'est un
oiseau géant qui vivait dans le sud, dans ce qui est aujourd'hui le sud de la France et nord de l'Espagne, il y a à peu près 70 millions d'années, et qui est quelque chose de complètement inattendu, dont on a découvert les premiers morceaux, c'était vraiment des morceaux il y a presque 20 ans maintenant, et qui était quelque chose qu'on n'imaginait absolument pas. Et
donc il aurait vécu en même temps que les dinosaures. Hein,
c'était un animal qui était peut-être de la taille d'une petite autruche, qu'on connaît encore très très mal. On l'a appelé Gargantua vis parce qu'il était très très gros, que ça nous a fait penser à Gargantua, mais très gros pour un oiseau.
Et il volait ?
Non, ça n'a vraiment pas été trop gros pour être un oiseau, pour voler. Il devait peser entre 50 et 100 kilos, c'est beaucoup trop gros pour voler. Et ça, on en trouve des morceaux de temps en temps dans les fouilles que je mène dans le sud de la France. Et quand on a de la chance, on trouve un os de cet oiseau qui vient compléter un peu notre connaissance de l'animal.
Et vous avez une idée de la... De son aspect, enfin.
C'est très difficile. C'est très difficile parce qu'on a une vertèbre par-ci, un morceau de bassin par-là, un fémur quelque part. Et c'est pas vraiment assez pour avoir un aspect total de l'animal. Et c'est pour ça aussi qu'il est intéressant, parce qu'il reste énormément à trouver à son sujet.
Et ça peut, là encore, faire fantasmer. On se dit quand même que nos dragons, là, tout le monde dit, que tous ces animaux fossiles qui ont vécu il y a des centaines de millions d'années sur Terre ont laissé une empreinte dans notre imaginaire, quelque chose comme ça.
C'est, dans la mesure où l'homme n'a pas été contemporain de ces animaux, et on n'a pas de souvenirs de ces animaux-là. En revanche, les fossiles, en tant qu'objets que l'on découvre dans les roches, eux, ils ont suscité toutes sortes d'interprétations avant la science paléontologique, des interprétations populaires, traditionnelles.
Mythiques,
religieuses. Il y a tout un folklore autour des fossiles qui m'a beaucoup intéressé, sur lequel j'ai même publié un livre il y a quelques années. Alors, ça peut être sur les dinosaures, mais pas forcément, même relativement peu sur les dinosaures en fin de compte, mais sur toutes sortes de fossiles, y compris des choses assez communes. Mais également, il y a des mythes et des légendes sur certains dinosaures, effectivement.
Donc les mythes et les légendes, oui, mais les idées reçues ou les idées fausses, non, en fait, c'est ça. Hein.
Ah oui, autant... Alors, évidemment, il y a un petit point commun dans la mesure où ces mythes sont souvent tout à fait fantaisistes, évidemment, par rapport à la réalité, mais ils m'intéressent beaucoup, les idées reçues. Elles m'intéressent aussi, dans un certain sens, parce que psychologiquement, ça peut être assez amusant. Enfin, il faut quand même les combattre.
Il faut les combattre, et puis surtout, il faut faire passer, partager les immenses découvertes et recherches sur les dinosaures. Merci, Eric Buffetaud, d'être venu en direct partager donc vos recherches et vos découvertes sur les dinosaures et sur cet oiseau géant mythique. On en reparlera peut-être. Merci de nous avoir éclairci les idées sur ces animaux fantastiques. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Idées reçues sur les dinosaures, réédité dans une nouvelle version augmentée aux éditions Le Cavalier Bleu.
La question sur internet www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Vous pouvez aussi nous retrouver désormais sur Spotify. Au plaisir de vous retrouver demain pour une émission spéciale autour du grand accélérateur de particules du CERN à Genève, qui ouvrira ses portes au public ce week-end. Entretien exclusif avec Fabiola Gianotti, la directrice générale du CERN, physicienne humaniste et engagée, qui nous fera partager sa traque de l'infiniment petit en en collaboration avec les éminents physiciens des particules du monde entier. À suivre demain avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Merci de votre fidélité, surtout restez curieux. Gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure du prochain journal.